du calvaire, il était une fois où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Nous voulons méditer la parole de Dieu rapidement dans le livre des Psaumes 32, 1 à 9. Psaumes 32, 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 32, 1 à 9. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, car comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteigneront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un morse dont on le part, afin qu'il ne s'approche point de toi. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voulons partager ces quelques versets avec l'aide du Saint-Esprit et nous demandons à ce qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles qui se trouvent dans ta parole et qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse parce que c'est à lui qu'appartiennent toute intelligence et toute sagesse. Dans ce psaume, le premier verset de ce passage indique le sujet même de ce psaume. Le bonheur d'un pécheur pardonné. Le bonheur de celui dont la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et ce premier verset de Cantique 32 nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. Ça nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 4, le verset 7, là où l'apôtre Paul dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. » Le pardon de Dieu est l'acte par lequel Dieu, par sa grâce, efface le péché, efface nos péchés et ne s'en souvient plus. Mais le pardon que Dieu nous offre, ce pardon exige de la part du pécheur l'honnêteté et la confession de péché. L'honnêteté, dire exactement vraiment tout ce qu'il y a, tout ce que tu as fait, être honnête devant Dieu et confesser ses péchés. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, nous commettons des péchés en détail, mais nous confessons nos péchés, nous commettons nos péchés, nous péchons en détail, mais nous demandons pardon, nous confessons nos péchés en gros. Il y a un déséquilibre quelque part. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il faut détailler
de la manière dont tu as commis tes péchés, tu commets tes péchés en détail, tu confesses aussi en détail. C'est un serviteur de Dieu qui disait ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Dieu exige l'honnêteté et la confession de nos péchés. Et la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, verset 8. Confesser son péché ne peut se faire avec légèreté. C'est avouer, reconnaître devant Dieu son péché, sa responsabilité et sa culpabilité. C'est ça confesser un péché. Reconnaître, avouer. Et dans le passage que nous venons de lire, le péché de David n'a pas nié ses péchés, ni excusé, cherché des excuses, ou cherché à, comment je peux dire ça, à amoindrir, donc diminuer ses péchés. Non, David a exprimé ses péchés et il a pleinement confessé ses péchés. Et dans ce passage, David exprime les sentiments d'un homme qui désire être réconcilié avec Dieu et souhaite aussi être conduit par Dieu dans sa relation avec lui. David avait un problème avec les péchés. Ça, je pense que nous le savons tous. David avait un problème avec les péchés. Si nous lisons dans Psaume 51, 5 à 6, nous voyons ce que dit David dans Psaume 51, 5 à 6. Il dit ceci, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David avait un problème avec les péchés et il ne les cache pas et il les dit ouvertement. Dans Psaume 25 aussi, nous voyons, il y a plusieurs passages où David exprime cela clairement. Il y a beaucoup de passages, mais bon, nous allons prendre seulement un ou deux. Dans Psaume 25, le verset 7, Psaume 25, 7, David dit ceci, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Dans tout cela, nous voyons que David n'a rien caché devant l'Éternel. Il a été honnête devant Dieu et il a confessé ses péchés. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi. C'est vrai, nous sommes sauvés, nos péchés ont été lavés, purifiés par le sang de Christ, grâce à ce sacrifice que notre Seigneur a accompli sur nous au mont de Golgotha. Mais dans notre marche de tous les jours, il y a certaines, on peut dire certaines impuretés qui se manifestent à nous et qui peuvent nous souiller. Exactement comme nous marchons dans la rue. Vous avez beau cirer vos chaussures avec du cirage, très bien, la chaussure brille. Mais en marchant dans la rue, il y a la poussière qui tombe là-dessus. Il y a la boue. Parce que quand on marche, on se salit. On risque de se salir. Et en rentrant à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos chaussures, nous enlevons toutes les impuretés. Et dans notre marche chrétienne, s'il y a quelques impuretés qui essayent un peu de nous affecter, alors la parole de Dieu nous dit, restons honnêtes envers notre Seigneur et confessons nos péchés. David n'a pas honte de dire à son Dieu que j'ai péché contre toi. David n'a pas caché ses péchés devant Dieu. Il a dit que mon péché est constamment devant moi. Parce qu'il se souvient de ce qu'il a fait. Des choses qui n'ont pas donné gloire à son Dieu. David cherche le pardon auprès du Seigneur et sa détresse est grande. Il désire non seulement le pardon de Dieu, mais aussi la transformation de son cœur, la délivrance de sa nature pécheresse. La délivrance de sa nature pécheresse. Il souffre de cette nature pécheresse et il a des difficultés à surmonter cette nature pécheresse. Et David dit, lui-même il dit dans, toujours dans Psaume 51, versets 12 à 14, David dit ceci, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Pardon. Il souffre de cette nature pécheresse et il demande à Dieu que, mon Dieu, crée en moi un cœur pur, un homme nouveau, afin que je puisse surmonter cela malgré moi. Malgré moi. Vous savez, chers frères et sœurs, David est un homme comme vous et moi, comme nous. Hein. Il n'y avait pas de différence. Hein. Il avait la chair comme nous, il avait le sang comme nous, il avait les yeux comme nous, il voyait ce que nous voyons aujourd'hui. Et David connaissait ce qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, ce que nous subissons aujourd'hui, David subissait ça aussi. Il connaissait tout cela, il traversait tout cela. Et ce que l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains chapitre 7 et le verset 18. L'apôtre Paul dit ceci, ce qui est bon, je le sais. David savait ce qui était bon. Nous aussi, nous savons ce qui est bon. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18. Et plus loin encore, dans le verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Exactement, beaucoup d'entre nous, peut-être moi le premier, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est pas bon, mais je ne sais pas ce que je fais. Des fois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais cela? Ça nous arrive tous à un moment donné de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Et David a vécu tout cela. David a vécu tout cela. Et dans le psaume 32, David dit, quand il se taisait, refusant de confesser ses péchés, la Bible dit, la main de Dieu s'apesantissait sur lui. Sa conscience ne lui laissait pas de repos nuit et jour. Sa conscience ne lui laissait pas de repos nuit et jour. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'à un moment donné de notre vie, nous traversons par ce moment-là. Nous traversons par ce moment-là. Ta conscience ne te laisse pas tranquille. Ta conscience est tourmentée. Tu es tourmenté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais cela? Et cela revient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Qu'est-ce que je fais? Le verset 4 dit, le verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et ça, c'est le fait d'un péché non confessé. David dit que tant que je me taisais, tant que je disais rien, tant que je ne confessais pas mon péché à mon Dieu, j'avais pas de repos, j'avais pas la paix. Je me tourmentais, ma conscience me tourmentait. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, celui qui se dit un enfant de Dieu, s'il fait quelque chose qui est contraire à Dieu, s'il fait quelque chose qui ne donne pas gloire à son Dieu, ta conscience ne sera pas tranquille. Si tu es réellement un enfant de Dieu, ta conscience ne restera pas tranquille. Tu n'auras pas sommeil. Parce que la main de Dieu s'apaisanterait sur toi. Et tu n'auras pas de repos. Parce que tu auras toujours cette phrase qui va revenir en toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais cela? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà ce genre de questions qu'on se pose. Et David a vécu tout cela. Mais une fois le péché avoué et confessé devant Dieu, une fois que David a avoué ses péchés, une fois qu'il a été honnête envers son Dieu, une fois qu'il a tout dit à son Dieu, David reçoit l'assurance que Dieu lui a pardonné ses péchés. Quand il a confessé ses péchés, il reçoit maintenant cette assurance de la part de son Dieu que tes péchés sont pardonnés. Et il peut maintenant vivre en paix. Parce que là, la communion est rétablie avec son Dieu. Il reconnaît maintenant, comme on dit, comme nous avons lu au verset 7, il reconnaît enfin que Dieu est un asile qui le protège dans la détresse et l'entoure des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Mais cette étape arrive juste après avoir tout dit à son Dieu. Ne restons pas dans cette étape-là, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui nous tourmente. Ne restons pas dans cet état-là quand il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il y a un ça va pas spirituel en nous. Dès qu'il y a un ça va pas, frères et sœurs, va, approche-toi auprès de la croix de Christ. Confesse tes péchés. Dis tout à ton Dieu. Sois honnête en ton Dieu. Et ensuite, tu verras que tu auras cette assurance que le Seigneur a donnée à David. Il a maintenant cette assurance et il reconnaît enfin que Dieu est un asile qui le protège. Alors, une relation personnelle se crée ou s'est créée entre Dieu, entre David et son Dieu. Une communion s'est établie entre lui et son Dieu. Donc en deux mots, nous pouvons dire, David a parlé, David a confessé son péché, David a reçu le pardon de son péché, et David a exprimé maintenant le bonheur, la joie d'un pécheur pardonné. Enfin, maintenant, Dieu répond à la confiance que David a placée en lui promettant de l'éclairer pour qu'il ne retombe plus dans l'égarement. Dieu maintenant répond à David. Vous savez, David maintenant, après avoir tout dit à son Seigneur, nous pouvons dire qu'il s'était, il garde le silence, il laisse maintenant place à son Dieu de parler. Alors, David s'était, pour écouter les instructions de Dieu qui parle, qui lui parle. Et le verset 8, le verset 9, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, dans d'autres versions, donc je te conduirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le verset 9, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Je t'instruirai. Deuxièmement, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Troisièmement, je te conseillerai. Et quatrièmement, j'aurai le regard sur toi. Dans la réponse de Dieu à David, nous remarquons au moins il y a deux choses. Il y a une promesse et il y a un avertissement. La promesse, Dieu lui dit, Dieu promet de conduire son serviteur par ses conseils, ses instructions, une direction à suivre et sa protection. Ça, c'est le premier point, la promesse que le Seigneur lui donne, lui fait. Et le deuxième point, une mise en garde, un avertissement. David est appelé à être attentif. Dans la réponse de Dieu, il y a deux points, une promesse et un avertissement. Chers frères et sœurs, si ces paroles ont été écrites, c'est parce que Dieu ne voulait pas s'adresser seulement à David, mais à travers lui, Dieu s'adresse à chacun de nous ce soir. Il s'adresse à chacun de nous ce soir, nous qui sommes ses enfants. Parce que Dieu se préoccupe de la manière dont nous vivons et des choix que nous pouvons faire dans notre vie chrétienne. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, comme David, lavé par le sang de Jésus-Christ, et nous jouissons du bonheur de pécheurs pardonnés. Et voici ce que le Seigneur nous dit ce soir. Cette promesse nous concerne et cet avertissement aussi nous concerne. Dieu veut nous donner des instructions sur la manière de nous conduire. Premièrement, Dieu dit, je t'instruirai. Dieu dit à David, je t'instruirai. Et Dieu te dit ce soir, je t'instruirai. Je t'instruirai. Vous savez, l'instruction, ça me fait penser quand nous étions encore à l'école, au collège, au lycée, tout ça. L'instruction, c'est le moyen par lequel le professeur utilise pour apprendre à ses élèves une certaine connaissance des choses. C'est ça l'instruction. L'éducation, c'est à la maison, mais l'instruction, c'est à l'école, comme on dit. Et à l'école, on apprend beaucoup de connaissances, des choses de la vie. Et Dieu dit à David, et il te dit aujourd'hui, il me dit aujourd'hui, je t'instruirai. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À travers sa parole, Dieu nous instruit. À travers sa parole, Dieu nous instruit. Parce que sa parole est capable pour nous instruire dans la justice. Et Jacques, chapitre 1, le verset 5, nous dit aussi, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Au travers la parole de Dieu, Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre instruction. C'est pour cela qu'il dit que je t'instruirai. Et le Seigneur nous instruit au jour les jours par le moyen de sa parole. La deuxième chose, l'Éternel dit, je te conduirai. Je te conduirai. Ou dans d'autres versions, il est marqué, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu veut nous montrer la voie à suivre. Cela veut dire que choisir une direction, dans la vie, choisir une direction n'est pas chose facile. Faire un choix, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît l'issue, la fin ou l'issue des choix qui peuvent être faits. Nous faisons des choix. Nous choisissons des directions à prendre. Est-ce que nous connaissons là où ça va aboutir? Non. Nous faisons des choix, c'est vrai. Est-ce que nous connaissons nos choix là où ça va nous amener à la fin? Non. Seul Dieu connaît où ses choix vont aboutir. Parce que c'est lui qui connaît tout. Mais nous devons savoir aussi que nos choix sont déterminants pour notre avenir. La direction que nous prenons des fois, c'est très déterminante pour notre avenir. De ces choix dépendent notre bonheur ou notre malheur. La direction que nous prenons, nous choisissons des fois, dépend de notre bonheur ou notre malheur. Et la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est pour cela qu'il nous est beaucoup plus nécessaire de se confier à l'Éternel afin qu'il nous montre quel choix, quelle direction nous devons prendre. Quel chemin nous devons suivre, quel choix nous devons faire. Parce que lui seul connaît l'issue où ses choix vont nous amener. Il est important, frères et sœurs, de se laisser conduire et d'être dirigé par Dieu dans nos choix et dans nos décisions. La troisième chose, Dieu dit, je te conseillerai. Il me dit ce soir qu'il me conseille. Il te dit que te conseillerai. Le conseil éclairé est une chose précieuse. De bons conseils, sagement écoutés, sont une source de réussite. Mais frères et sœurs, n'oublions pas que dans ce monde, nous sommes souvent entourés de nombreux conseillers. Au travail, à la maison, dans la famille, les amis, nous sommes entourés de nombreux conseillers. Mais ils ne sont pas tous bons. Ils ne sont pas tous bons. Essaye d'avoir un problème et essaye de demander des conseils. Si tu vas trouver 50 personnes, tu auras 50 conseillers, 50 conseils différents. Est-ce que tous ces conseils-là sont bons? Point d'interrogation. Point d'interrogation, frères et sœurs. Nous sommes entourés de nombreux conseillers, mais ils ne sont pas tous bons. Dieu est le meilleur conseiller, car sa parole nous éclaire toujours. Et sa parole ne nous pousse pas à l'erreur, ne nous amène pas à l'erreur. C'est Dieu qui doit nous éclairer. Le bon conseiller dans notre vie, c'est le Seigneur. C'est pour cela qu'il est utile de le consulter. Avant toute chose, de le consulter. Parce que c'est lui qui est le bon conseiller. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Si on se fie à cette parole, on revient à chaque fois à cette parole, le Seigneur va nous éclairer. Même si nous ne voyons pas le bout du tunnel, mais le Seigneur va nous éclairer parce que c'est le bon conseiller. Je me souviens encore de cet exemple que Steve nous avait donné un jour, que tu prends ta voiture pour aller à Lyon. À Lyon, à peu près, c'est 600 ou 650 kilomètres. Tu fais la route la nuit. Mais dans ta voiture, est-ce que l'éclairage qu'on a dans notre voiture, ça éclaire de Saint-Denis jusqu'à Lyon? Non. Ça n'éclaire pas de Saint-Denis jusqu'à Lyon. Vous mettez vos phares à 50 ou 100, oh, directement jusqu'à Lyon, vous voyez de Saint-Denis jusqu'à Lyon. Oh, voilà, je peux rouler. Non. Je peux rouler tranquillement. Non. Ça n'éclaire pas jusqu'à Lyon. Mais comment on roule dans nos voitures? Nous avons le feu 5, donc le feu de croisement qui nous éclaire à 50 mètres, et nous avons le feu de route qui nous éclaire à 100 mètres. Et petit à petit, on avance, 50 mètres, ta voiture est éclairée jusqu'à 50 mètres, tu roules jusqu'à 50 mètres, tu vois très bien. En plus, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, jusqu'à faire les 600 mètres. Mais des fois, les enfants de Dieu, en demandant conseil, ils veulent que tout soit clair, du début jusqu'à la fin, qu'ils voient déjà par où ça va. Non, les seigneurs, des fois, nous donnent conseil, nous éclairent petit à petit. Plus que nous avançons, petit à petit, comme une voiture. Le feu de croisement, feu de route à 100, tu vois jusqu'à 100 mètres. Dès que tu franchis les 100 mètres, encore 100 mètres, encore 100 mètres, encore 50 mètres. Et c'est comme ça. Mais cela n'est possible que si tu te confies à l'Éternel, lui qui est le bon conseiller, il va éclairer ton chemin petit à petit, jusqu'à atteindre ton objectif. Seul Dieu est le bon conseiller, parce que sa parole nous éclaire, sa parole est une lampe à nos pieds. Et la quatrième chose, la quatrième promesse, l'Éternel dit, je veillerai sur toi. Dieu veillera sur nous. Dieu veillera sur moi. Dieu veillera sur toi. Oui, Dieu aura toujours un regard sur nous, frères et sœurs. Et veillera sur le bon déroulement des choses pour lesquelles il nous a instruits, les choses pour lesquelles il nous a conseillés, les choses pour lesquelles il nous a dirigés. Dieu nous a tout donné. Nous avons les conseils. Nous avons tout ce qu'il faut, l'instruction qu'il faut. Maintenant, le yeux de Dieu est braqué sur nous. Parce qu'il dit, je veillerai sur toi. Dieu aura un regard sur nous. Qu'est-ce que tu fais de cette instruction que le Seigneur te donne? Comment tu utilises cette direction, ces choix que le Seigneur t'a donné, t'a fait comprendre? Et qu'est-ce que tu fais de tous ces conseils que le Seigneur te donne? Dieu aura un regard sur nous. N'oublions pas cela, chers frères et sœurs. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore jeune, à l'époque, j'étais chez mes parents. Papa me disait, bon, ok, tu vas faire ça, ça, ça. Il m'a donné des instructions. Papa. Et à chaque fois, il veillait sur ce qu'il m'avait dit, si je faisais exactement ce que lui avait dit. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand je revenais de l'école, comme tout jeune, vers 17h, on allait jouer au foot, on se promenait avec les amis, tout ça. Et par malheur, ce jour-là, papa rentrait à 17h à la maison. Souvent, il rentrait vers 19h. Alors qu'il m'avait dit, dès que tu rentres de ton école, tu te reposes, mais à partir de 17h, tu révises tes cours jusqu'à 19h. Après, tu vas au lit. Parce qu'à l'époque, nous, on dormait un peu trop tôt, donc très tôt, et on s'est réveillé aussi très tôt aussi. À 5h30, on était déjà debout. C'est pas comme ici, les enfants d'ici, ils se réveillent à 8h, 9h. Nous, à l'époque, c'était pas comme ça. On dormait vraiment vers 19h, on était déjà au lit, à 19h, 19h30. Mais 5h30, on était déjà debout, hein. On était déjà debout. Alors, ce jour-là, papa est revenu un peu plus tôt. Moi, je ne révisais pas mes cours. Je jouais au foot avec mes amis. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Et j'ai reçu la correction qui allait avec. Hein. Et ce que le Seigneur dit, je veillerai sur toi. Dieu aura toujours un regard sur nous. Il veillera sur le bon déroulement des choses pour lesquelles il nous a instruites, qu'il nous a dirigées, qu'il nous a conseillées. Enfin, il y a cet avertissement. Cet avertissement au verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne soyez pas comme un cheval qui est tenté d'avancer avant que le cavalier lui en ait donné l'ordre. Ne soyez pas comme le cheval. Le cheval et le mulet ont besoin d'un frein et des morses pour le rendre soumis et obéissant. C'est pour ça qu'ils ont toujours quelque chose là dans leur bouche avec des cordes pour le rendre obéissant. Ils sont dirigés, ils sont certes dirigés par les cavaliers, mais sans qu'il y ait vraiment un consentement de leur part. Ils y vont beau gré, bon gré, mal gré. Ils vont à gauche parce qu'on lui demande d'aller à gauche. Il va à droite parce qu'on lui demande d'aller à droite. Mais il ne sait pas pourquoi il va à droite. Pourquoi il sait. Donc, il doit aller à gauche. Et la Bible dit non, ne soyons pas comme le cheval et le mulet. Parce que le Seigneur veut que nous restions obéissants et que nous savons ce que nous faisons. Et si c'est, nous avons confiance en notre Seigneur, si le Seigneur nous dit d'aller à gauche, nous savons pourquoi nous devons aller à gauche. Je vais à la gauche pour la gloire de mon Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui m'a dit d'aller à gauche. Et quand c'est le Seigneur qui t'a dit d'aller à gauche et que tu obéis, tu sais qu'à la fin, la gloire va revenir à notre Seigneur. Parce que lui, il sait toutes choses. Pour finir, frères et sœurs, ce psaume commence en nous annonçant le bonheur qui vient du pardon des péchés. Le péché non confessé est un fardeau. Et quand nous confessons nos péchés, nous sommes soulagés du poids des péchés. Dépendre de la volonté de Dieu est fondamental, car lui seul, Dieu seul connaît et contrôle toutes choses. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors, remettons-nous à ce Seigneur, obéissons à ce Seigneur et suivons ce que lui nous dit, la direction qu'il trace devant nous, les choix qu'il fait pour nous. Alors, faisons-lui confiance parce que lui seul sait pourquoi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir parlé ce soir, car ta parole est la vérité. Merci parce que nous sommes des pécheurs pardonnés. Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'avoir ce bonheur, cette joie d'être appelés enfants de Dieu, Seigneur. Et nous les sommes. Nous sommes des co-héritiers avec Christ dans le royaume des cieux, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel privilège. Nous t'exprimons notre reconnaissance et notre amour, Père. Merci parce que tu as tout fait pour nous. Tu as tout payé sur la croix. Tu t'es sacrifié pour nous sur la croix. Tu as pris cette condamnation qui nous était réservée. Et maintenant, Seigneur, nous sommes le bienheureux. Garde chacun de tes enfants. Conduis-nous, Seigneur, et instruis-nous par ta parole. Montre-nous le chemin à suivre, Seigneur, car ce que toi tu veux pour nous est toujours le meilleur, Seigneur. Que nous puissions rester fidèles à toi et que nous puissions à chaque fois dépendre de toi en toutes choses.
Merci pour toutes choses, Père. Sois avec tes enfants, Seigneur. Soutiens chacun de nous et fortifie notre foi. Au nom de Jésus. Amen.